Voilà, c'est Sporama qui commence avec Eric Manirakiza en votre compagnie, des événements sportifs du week-end, mais aussi de cette semaine, la Ligue des Champions en Afrique, le tour préliminaire. Il y a aussi la Coupe de la Confédération. On passera en revue les matchs retour pour la Champions League en Europe, l'UEFA, et on verra comment se comportent les Africains dans les différents championnats en Europe. Et nous aurons d'autres nouvelles sportives. Nous sommes en ligne avec Jules Valentin Ngou qui va nous surprendre avec sans doute son coup de sifflet pour marquer le début de Sporama. Jules.
Oui.
Bonsoir. Eric. Bonsoir.
Bonsoir Eric. Ah, bonsoir à tous.
Je n'ai pas entendu ton coup de sifflet. Tu n'as pas sifflé. Hein? Où est-ce que tu as mis ton sifflet?
Tu sais Eric, tout ce programme est réellement un coup de sifflet. Tellement il y a des événements, disons que en cours, ou alors des événements attendus.
Mmh. Ah, je vais poser la question à Christophe Aboujumbura s'il a entendu ton coup de sifflet. Christophe, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Oui, Jules n'a pas sifflé, hein.
Non, il n'a pas sifflé, mais il y aura des sifflets après la qualification des Burundais pour les différentes coupes africaines. Mais toujours est-il qu'il a sifflé et on commence à siffler.
Mmh, oui. Élisée, est-ce que tu es là, Élisée? Bonsoir.
Oui, bonsoir et bienvenue dans Sporama.
Merci Élisée. Et voilà, tu es avec Christophe et Jules. On n'a pas eu à Médine aujourd'hui, mais ça va faire un trio, exceptionnel, n'est-ce pas?
Oui, un trio pour qui pourra faire l'affaire. Et je profite pour saluer Christophe Nkurunziza. Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus revu.
Oui, il t'écoute. Christophe, tu peux dire bonsoir à Élisée?
Tueur de Jésus-Christ.
Oui. Élisée?
Oui, Eric.
Voilà, il t'a entendu. Et Christophe, tu sais, c'est l'ancien footballeur de l'équipe nationale du Burundi.
Oui, oui.
Tu es au courant de ça?
Oui, oui. On en a parlé quand on a eu l'occasion de se voir.
Il t'a dit comment il était, quand il pouvait être performant. Je ne vais pas le dire tout de suite au micro, mais on va revenir sur les résultats des matchs qui ont été joués ce week-end. Il y a le stade malien de Bamako qui s'est incliné devant Barak Yang du Liberia. 7 tirs marqués contre 6 en faveur de Barak Yang. Après le temps réglementaire, le stade malien de Bamako menait 1-0. C'était hier dimanche au stade Modibo Keita de Bamako. Un match comptant pour les préliminaires de la Ligue africaine des champions. C'était un match retour. Pour rappel, au match aller au Liberia, il y a une semaine, le stade malien avait été battu 1-0. Et je vous propose de suivre le coach du stade malien de Bamako, Mamoutou Kané, au micro de Traoré Siaka.
J'ai pas d'autre impression dessus, je suis désolé. Je suis très déçu, très très déçu. Le mot me manque pour qualifier cette défaite avec l'apport des supporters, le soutien, ces gens. Ils ont été du début jusqu'à la fin avec nous pour qu'on puisse se qualifier. Les responsables, malheureusement, on a failli. La défaite, ça fait très mal, très très mal. C'était l'un de mes objectifs. Si je n'arrive pas à atteindre ces objectifs, je suis écœuré, très mal, très mal. Le football, c'est la victoire, c'est la défaite. Aujourd'hui, c'est la défaite, j'assume.
Voilà l'entraîneur du stade malien qui est déçu, mais qui assume le résultat final. Jules? Gilles,
oui. Le stade malien éliminé, c'est une surprise tout de même parce que s'il fallait coter les deux équipes, le Stade Malien, c'est quand même une équipe qui est, ma foi, un client difficile, qui est habitué à arriver souvent à, disons que dans les phases de poule, soit en Ligue des Champions, soit à la Coupe de la CAF, et qui, ma foi, et fait bonne impression et parfois même arrive dans le carré d'as. Donc, que cette équipe se fasse éliminer dès les préliminaires face à une équipe libérienne, et c'est, il faut le dire, c'est au moins une demi-surprise. Mm-hmm. Mais je crois que c'est ça le football, et généralement, les effectifs des équipes changent. Et donc, ma foi, peut-être que nous avons un Stade Malien beaucoup moins mordant cette année, et, mais les grandes équipes, on le sait, ne meurent pas.
On va peut-être retrouver le Stade Malien dans la Coupe de la Confédération.
Oui, bien sûr.
Ouais. Et il faut noter toujours que hier, en déplacement au Nigeria, l'AS Real de Bamako a perdu contre Universe United du Nigeria sur le score de 4-0. Il n'y a pas eu que des équipes maliennes. Il y a eu d'autres équipes sur le continent qui ont joué. Élisée, est-ce que tu as des résultats à partager avec nos auditeurs?
Oui, bien évidemment, Eric, hein, il faut dire que la logique a été respectée, hein, quelque part, notamment les Soudanais d'El Merrek qui ont éliminé les Équato-Guinéens de Sony Ella Nguema, l'AS Sanda qui a passé l'étape nigérienne, hein, de l'ASFAN, le fils de Rabat qui a battu le club Sierra Leonais Johansen Zanaco, et c'est un peu la surprise, hein, qui est allé battre APR, hein, l'armée patriotique du Rwanda, 1-0. À l'aller, les deux équipes se sont séparées 0-0. Nunga Africans, hein, qui sera bien sûr présent au second tour, puisque ce club a éliminé les Comoriens de Nganga. Et il faut aussi noter la qualification, hein, de V-Club, hein, l'association sportive Victoria Club de Kinshasa, le club coaché par Florent Ibenge. Hier, eh bien, cette équipe a écarté l'équipe de Swaziland, hein, sur la marque de 3-0, 3-1 plutôt. Et il y a, ben, un joueur remarquable, hein, qui a fait un doublé. Les Léopards Royales n'ont pas tenu, puisque déjà battu à l'aller 1-0. Et il faut aussi noter, hein, la grande déception du côté du Sewe Sport de San Pedro, l'équipe, le club ivoirien qui a remporté à 4 reprises le championnat ivoirien. C'est vrai que depuis 3 ans, cette équipe est à la recherche de son passé, bien éliminée par les Gambiens du Port Authority. Et une autre élimination, hein, celle de l'USM de Loum, hein, le club camerounais que connaît bien sûr notre doyen, hein, qui est au Gabon, Jules Valentin Ngwe, qui connaît bien sûr l'équipe de Loum, qui a été sacré championne, hein, la saison dernière, bien, qui a été battu par un ancien vainqueur de la Coupe de la Confédération. Il s'agit des Congolais de Brazzaville, AC Léopard. Sinon, la logique a été respectée quelque part. Donc, on aura de très belles confrontations, surtout au niveau des 16e de finale, puisque là, après la qualification, ce sera directement, on fera place, hein, directement aux phases de poule, puisque cette année, on aura 4 groupes, donc 16 équipes seront qualifiées pour la phase finale et toujours pour le titre final, puisque on connaît les Mamelodi Sundowns vont bien sûr bientôt, hein, mettre leur titre en jeu, et ce sera très difficile, Eric.
Mmh. Oui, Christophe, vous avez suivi différents matchs. Quelles sont les rencontres les plus importantes ou intéressantes que vous avez pu noter?
Il y a eu des équipes burundaises qui ont joué avec. Il y a eu l'équipe burundaise de Vitalo FC qui a joué avec une équipe de Zanzibar et qui s'est qualifiée. Il y a également une équipe qui n'était pas visible ici au Burundi, mais c'est qui est partie, qui a gagné contre une équipe de la Tanzanie. Toujours est-il qu'il y a d'autres rencontres que je n'ai pas suivies, sincèrement, mais le football burundais, ça se montre qu'il y a une certaine évolution malgré des problèmes qui arrivent, parce qu'il y a une équipe également de la Tanzanie qui est venue ici à Bujumbura, mais qui est rentrée la même soirée avec les moyens de bord, c'est-à-dire avec dans un bus de transport.
Mmh. Oui, Jules, on a vu des matchs comptant pour la Ligue des champions, mais aussi des matchs comptant pour la Coupe de la Confédération. On aura les matchs aller les 11, 12 et 13 mars, et les matchs retour les 18, 19 et 20 mars. Ça, c'est pour la Ligue des champions, tandis que pour la Coupe de la Confédération, les matchs aller se joueront les 10 et 12 mars, et les matchs retour les 17 et 19 mars. Mars, vous avez vu aussi la CAF, la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que lorsque vous observez, vous analysez les matchs sur le continent, est-ce que le football évolue? Y a-t-il des talents que vous détectez?
Oui, bien sûr. Il y a surtout que beaucoup d'équipes rentrent en compétition et c'est toujours une très bonne chose. Parce que c'est la compétition qui permet à ces équipes de relever leur niveau de jeu. Et un peu comparativement avec ce qui s'est passé en Europe, dès qu'on est passé de la Coupe d'Europe des champions à la Ligue des champions, on a senti tout de suite que cela faisait du bien aux différents compétiteurs qui pouvaient rentrer dans leur championnat et servir de locomotive. C'est ce qui est en train de se passer en Afrique. Il ne se passe pas une année sans qu'on découvre une équipe, ma foi, qu'on ne connaissait pas, mais qui présente quand même un jeu très attrayant, ou alors qui laisse supposer que sûrement le football africain évolue à tous les niveaux. Donc je crois que c'est souhaitable et c'est souhaité. Et les compétitions qui, disons, attirent le maximum de compétiteurs au début nous permettent, au fur et à mesure qu'on passe les échelons, de relever le niveau. J'ai particulièrement apprécié aussi ce week-end, par exemple, la Super Coupe, et où vraiment on avait l'impression d'être dans une compétition de niveau mondial.
Mmh. Nous avons un auditeur en ligne, c'est Christian Djerabé. Christian, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Oui, vous êtes un amateur du football. Est-ce que vous pensez que les compétitions qu'on voit aujourd'hui suscitent cet engouement qu'on voyait il y a quelques années?
Oui, sur le plan national africain, je pense que c'est très bien. Les jeunes évoluent très bien dans le domaine du football. Uh-huh. Donc, c'est des jeunes qui innovent, qui demandent à être encouragés pour geler le drapeau de leur pays. Uh-huh. Moi, je voudrais revenir sur le match de Barça avec le PSG. Je veux savoir.
Effectivement, vous avez une question. Oui, vous avez une question là-dessus. Oui, hein.
J'aimerais savoir ce qui a fait la force du PSG pour battre le Barça par 4-0. Et ma deuxième question.
Uh-huh.
J'aimerais savoir sur le voyage de Lionel Messi.
En Égypte.
En Égypte, pour la lutte contre le capitalisme.
Oui. Ok. Gardez la ligne, Christian. Je vais demander à tous nos trois contributeurs d'apporter chacun un élément de réponse. On va commencer par Élisée. Élisée, pourquoi le PSG a battu le Barça 4-0,
non,
c'est quand même beaucoup.
Oui, Eric, pourquoi le PSG a battu le Barça? C'est parce que les Parisiens ont beaucoup étudié le jeu barcelonais, encore que lors des trois dernières éditions de cette Ligue des Champions, eh bien, les Parisiens ont souvent affronté les Barcelonais. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'ils ont été disciplinés tactiquement. Hein, ils ont été vraiment agressifs du début jusqu'à la fin. On voit même Edison Cavani, un avant-centre, faire un effort remarquable, effort physique pour venir défendre jusque dans son camp, et il n'est pas permis de voir un avant-centre descendre jusque dans sa moitié de terrain pour venir couper les espaces à ces Barcelonais. Lionel Messi, transparent, puisque dérangé de bout en bout durant toute cette partie, et on a vu que le milieu de terrain barcelonais n'a pas véritablement fonctionné, il n'est pas étouffé par trois bons milieux remarquables, surtout Rabiot. Rabiot qui, c'est vrai, c'est un jeune joueur, mais qui a vraiment évolué dans l'entrejeu du Paris Saint-Germain. Verratti, toujours égal à lui-même, techniquement, au point, une attaque de feu, Cavani, et l'autre, Di Maria, qui a très tôt pris les choses en main. C'est vrai que les Parisiens étaient vraiment réaliste, hein, ce qui a coupé court rapidement à ces Barcelonais, une attaque étouffée, un milieu de terrain qui n'a pas beaucoup fonctionné, une défense lamentable avec Piqué et Umtiti et qui ont été méconnaissants. Beaucoup de facteurs ont fait que ces Parisiens ont pris le dessus sur les Barcelonais et le match de retour s'annonce donc explosif, explosif, j'allais dire.
Christophe, on a vu l'entraîneur des Catalans, Luis Enrique, qui n'a pas encore digéré cette défaite.
Oui, il paraîtrait que même dans les vestiaires, il y a eu un accrochage avec des journalistes européens. Mais toujours est-il que quand on regarde les matchs en tant que tels, Paris Saint-Germain était meilleur, ils étaient bien en place. Et là, directement, je reviens sur le sport africain, le sport burundais en général, parce que il faut toujours préparer par la base. Quand on regarde la jeunesse de l'équipe du Paris Saint-Germain à ce moment-là, on voit très bien qu'elle était outillée pour essayer de gagner contre une équipe, je ne dis pas vieillissante, mais qui tend vers ça. Quand on regarde les grands joueurs, Iniesta, bien sûr qu'il revenait de blessure. Il y avait Messi qui n'était pas dans son beau jour. Il y avait Neymar, MSN, le trio MSN qui n'allait pas très bien. Toujours est-il qu'on voit très bien une équipe de Paris Saint-Germain. Il y a Élisée qui a parlé de la jeunesse, Rabiot, on a parlé de Verratti, on a parlé d'autres joueurs qui étaient motivés plus que la vieillesse, entre guillemets, de l'équipe de Barça. Mais si en Afrique, on pouvait essayer de mettre en place certaines politiques footballistiques dans ce sens, je suis sûr que demain après-demain, on peut avoir beaucoup, beaucoup d'Africains qui sont plus que Messi, donc des joueurs à la carrure internationale. Mais toujours faut-il que il y a des politiques nationales qui suivent dans le même sens au niveau de la politique footballistique et de la politique sportive africaine.
Mmh. Jules, vous êtes là. Qu'est-ce qui a fait que Paris gagne?
Non, mais il faut d'abord dire que ce sont des équipes de même catégorie. Et tout peut arriver en l'espace d'une rencontre. Bon, que des défaillances ou des réussites viennent d'un côté ou de l'autre. Nous avons par exemple une équipe de Barcelone dont l'effectif est relativement saturé parce qu'il est très sollicité et qui a perdu, disons que à certains postes, des joueurs clés. Je pense par exemple à Mascherano dans le repli défensif. C'est un joueur extrêmement important dans le placement des défenseurs, surtout quand l'équipe souffre. Donc, il n'était pas là, ça s'est réellement senti. Mais la palme d'or revient surtout à l'adversaire du jour de Paris Saint-Germain qui a su jouer sa carte et qui a été très réaliste et très lucide. Il a peut-être également eu la chance de réussir ses premiers coups parce que les buts étaient des buts, ma foi, qui n'étaient pas toujours évidents, qui étaient dus à une précision formidable de ceux qui ont essayé d'avoir ces buts, les tirs étaient très bien placés. Et tout de suite, ça a coupé l'herbe sous les pieds de l'adversaire. Il ne faut pas oublier qu'en football, les chaos existent. On a vu le Brésil s'effondrer pendant la Coupe du Monde face à l'Allemagne. Pourtant, cette même Allemagne était constituée de 9 joueurs du Bayern qui se sont effondrés à domicile quelques mois avant face au Real Madrid en 20 minutes en encaissant 5 buts. Donc, il peut arriver qu'un jour sans, une équipe prenne le dessus sur l'autre et que cela paraisse vraiment surprenant. Et surtout qu'en football également, les équipes qui perdent les matchs précédents, c'est elles qui cherchent disons, à contrecarrer le système de l'adversaire, ce n'est pas le contraire. Celle qui gagne toujours a du mal à changer son jeu.
Jude, est-ce que vous pensez que les dés sont jetés ou que le Barça peut remonter la pente?
Oui, mais en football, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Vous prenez un scénario, par exemple, idéal pour le Barça. S'il marquait dans les 20 premières minutes, et s'il obtenait même dans les 30 premières minutes, s'il marquait deux buts, là, ça devient possible, tout devient possible. Mais seulement, comme il n'a pas marqué à l'extérieur, ses chances seraient toujours maigres, mais tout redeviendrait possible malgré tout. Mais sinon, à ce stade-là, c'est pratiquement du 10% contre 90%.
Oui. On a parlé de la visite de Messi en Égypte. Il sera au Caire demain pour participer à cette campagne visant à promouvoir le tourisme de santé et la lutte contre l'hépatite C. Jules, est-ce que vous êtes informé sur sa visite? Est-ce qu'il y va pour ses propres moyens ou c'est l'OMS qui finance? C'est la question de Christian Djerabé.
Non, mais Messi est un personnage qui va au-delà du personnage sportif. Et donc, il est clair qu'il est sollicité pour d'autres actions. Et dans ce cas, je pense que tout ne peut pas nous être dévoilé automatiquement, aussi ouvertement, mais les moyens qui sous-tendent de telles actions doivent venir, bien sûr, en dehors du monde du football.
Mmh. Christian, vous êtes satisfait des réponses de nos trois contributeurs, n'est-ce pas?
Christian. Oui, je suis vraiment satisfait. Merci, Eric.
Merci, bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique et de Sporama. Vous avez entendu que le président de la FIFA, c'est Gianni Infantino, qui sera demain et mercredi à Johannesburg pour rencontrer les 54 présidents de fédérations africaines de football. Et le but de la visite, c'est pour convenir l'élargissement du mondial à 48 équipes à partir de 2026. Le format actuel, c'est 32 équipes. Et l'Afrique obtiendrait 9 places dans ce nouveau format contre 5 auparavant. Et le pays organisateur sera connu en mai 2020. Élisée, une minute, est-ce que vous pensez que Infantino va convaincre les fédérations africaines pour passer à 48 équipes?
Oui, certainement, puisque on se rappelle lors de son élection à la tête de la FIFA, cela faisait partie de ses projets et les Africains, c'est vrai que pas tous les Africains ont cru en lui. Déjà, les Soudanais, les Sud-Soudanais ont cru en lui et par la suite, les Africains vont comprendre que c'est une très bonne initiative. Si déjà l'Afrique peut avoir 9 représentants, c'est vrai que c'est petit, on peut aller même jusqu'à 12, puisque c'est un grand continent et ça compte beaucoup de fédérations. Donc déjà, si l'Afrique peut avoir 9 représentants lors de ces compétitions, c'est déjà une bonne chose. Et moi, je leur demande d'accepter largement cette proposition, puisque cela fera du bien à notre continent.
Mmh. Bakary Keïta, bonsoir.
Eric, bonsoir.
Ça va?
Ah, ça va très bien, très
ouais,
bien.
Je sais que vous jouez au football.
Bien. J'aimerais revenir un peu sur la grosse déception de la performance quand même de nos équipes. Stade Malien et la Céréale.
Vous avez une minute, Bakary.
Oui, je crois que ça fut quand même une journée noire stérile pour le football malien. Donc nous allons nous remettre en cause pour travailler pour que l'année prochaine, nous allons quand même rentrer dans la phase de poule de la Champions League africaine.
Il faudrait peut-être faire appel à Salif Keïta.
Salif Keïta, ouais, quand même, il est incontournable, c'est le premier ballon d'or africain. Donc, il a un apport indéniable pour le développement du football malien.
Merci, Bakary, pour votre optimisme. Et je reviens vers Christophe à Bujumbura. Christophe, on a vu différents joueurs qui évoluent en Europe. Après la CAF, il y en a qui n'ont brillé pas comme avant, mais il y en a d'autres quand même qui gardent le cap. C'est notamment les Guinéens et
Sané.
Et Sané.
Oui, Aubameyang, on voit très bien que est un très grand joueur, mais il peine. Dernièrement, contre-match du championnat allemand. Il a raté un penalty, mais l'entraîneur de l'équipe l'a enlevé avant la fin des 98 minutes réglementaires. Je pense que il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent, même pas au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a d'autres talents qui sont cachés
et en Espagne,
partir de certaines brousses africaines, mais qui jouent véritablement au football.
En Espagne, ce sont les Marocains qui se distinguent.
Appeler les autorités à aimer le football.
Et en Espagne, c'est les Espagnols, les Marocains qui se distinguent dans la Liga. Jules.
Bien sûr.
Oui.
Oui.
Oui, c'est pour un coup de sifflet final, parce qu'il nous reste moins d'une minute pour terminer. Voilà, votre coup de sifflet.
Mais bien sûr, le coup de sifflet, ce sera tout juste à l'honneur du football africain, qui vient de démontrer, il y a quelques semaines seulement, sa maturité en nous présentant une excellente Coupe d'Afrique des Nations, très indécise et surtout très bien filmée, et qui montre que l'Afrique est vraiment rentrée en plein dans le giron du football mondial, le football spectacle, et que, ayant la matière première, cela va sûrement s'améliorer au fur et à mesure que les compétitions vont venir.
J'ai déjà sifflé, Jules, j'ai déjà sifflé, c'est la fin de Sporama. Merci à Christophe, à Élisée, à Jules, à tous les auditeurs. Eric Manilakiza vous retrouve à la prochaine. Au revoir.